RFI 8h30, à Paris 6h30, à Bamako et en temps universel.
RFI Matin.
Et un nouveau journal avec vous, Nemo Ampis. Après des responsables politiques enlevés, un militant pro-démocratie agressé au couteau au Mali.
Des enlèvements attribués par beaucoup à la sécurité d'État sur fond de tension après la suspension des activités politiques du pays. Mais pour cette attaque, les responsabilités ne sont pas établies. On vous raconte ensuite ce qui s'est dit à Moscou lors de la discussion entre Vladimir Poutine et le capitaine Ibrahim Traoré, le chef de la junte burkinabé qui veut notamment renforcer la coopération militaire entre les deux pays. Eux veulent une église autonome. Les participants à l'Assemblée générale des conférences épiscopales d'Afrique de l'Ouest ont dévoilé les grandes lignes de leur réunion qui se tient cette semaine à Dakar. Et puis un natif de Dakar en route pour un titre mondial. Le boxeur français Souleymane Sissoko, vainqueur pour la 18e fois de sa carrière professionnelle en autant de combats, c'était hier à Malabo et dans la douleur.
Au Mali, l'inquiétude des militants pro-démocratie se poursuit.
Jeudi et vendredi, plusieurs enlèvements et tentatives d'enlèvement par la sécurité d'État ont été enregistrés, visant des responsables politiques critiques des autorités de transition. Et dans la nuit de vendredi à samedi, Cheikh Oumar Doumbia, acteur majeur de la société civile et l'un des fondateurs du collectif des Jeunes pour la démocratie, a été agressé au couteau. Cette fois, les responsabilités sont bien moins claires, David Baché.
L'interposition de ses amis a permis à Cheikh Oumar Doumbia de s'en sortir avec une égratignure, selon ses proches. Mais cette agression au couteau suscite bien sûr de nouvelles inquiétudes pour les militants pro-démocratie. Jeudi, Alassane Abba, du parti Kodem, était enlevé à son domicile. El Bachir Thiam, du parti Yelema, a quant à lui été enlevé en pleine rue. Hommes en armes et en cagoule, véhicules sans plaques, les méthodes de la sécurité d'État sont connues. Mais l'agression au couteau de Cheikh Oumar Doumbia n'y ressemble pas. La sécurité d'État ne tue pas publiquement de surcroît en plein Bamako, affirme une source sécuritaire malienne, qui reconnaît par ailleurs que la sécurité d'État est bien à l'origine des enlèvements. Ces derniers jours, les soutiens des militaires au pouvoir ont multiplié les appels à la haine et à la violence contre les défenseurs de la démocratie. Des membres du Conseil national de transition ont ouvertement lancé de tels appels, largement diffusés sur les réseaux sociaux. Mercredi, quelques jours après l'éclosion d'un mouvement de contestation inédit depuis le début de la transition, les autorités ont interdit toutes les activités politiques des partis et associations dans le pays, jusqu'à nouvel ordre, pour raison d'ordre public.
David Baché, des arrestations au Niger, on vous en parlait, les trois journalistes de la radio Sahara FM sont toujours détenus à la gendarmerie d'Agadez. Pour rappel, ils avaient été interpellés mercredi soir, libérés vendredi par un juge, puis réinterpellés dans la nuit de vendredi à samedi. Ils avaient tous trois relayé une information du média en ligne LSI Africa concernant des accords entre le Niger, la Russie et la Turquie. Ce matin sur RFI, le président de l'Union des journalistes de la presse libre africaine dit son indignation et appelle à leur libération immédiate. Le Niger, où les autorités, à l'approche de la Tabaski prévue début juin, ont interdit l'exportation du bétail, à objectif selon Niamey, assurer l'approvisionnement régulier du marché à l'occasion de cette fête célébrée par les musulmans. L'actualité du continent toujours en bref. Au Bénin, un poste de police avancé a été attaqué dans la nuit de vendredi dans un quartier de la commune de Kouandé dans le nord-ouest du pays. C'est à plus de 500 km au nord de Cotonou, précisément à quelques dizaines de kilomètres à l'est de Natitingou et de la frontière avec le Togo. Selon des sources sécuritaires, il n'y a ni eu blessés ni décès. Après avoir tiré plusieurs fois, les assaillants sont repartis en mettant le feu à deux motos.
Le capitaine Ibrahim Traoré en tête-à-tête avec Vladimir Poutine à Moscou.
Oui, pour seulement son troisième voyage à l'étranger en dehors des pays de l'AES depuis son arrivée au pouvoir. Trois, dont deux en Russie. C'était à l'occasion du défilé du 9 mai, date retenue par les Russes pour la capitulation de l'Allemagne nazie en 1945. Le chef de la transition burkinabé a évoqué avec son homologue l'évolution de la coopération bilatérale. Il a notamment plaidé pour un rapprochement militaire et pour un transfert de connaissances dans la lignée de l'essence de son combat, à savoir, dit-il, en finir avec la guerre, avoir une armée forte et lancer le développement. Arthur Ponchelet.
Au cours de l'entretien, le président russe a souligné que ce qui unissait la Russie et le Burkina Faso aujourd'hui, c'était la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme et qu'il s'agit de restaurer l'ordre constitutionnel face à des groupes radicaux dans certaines régions du Burkina Faso. Vladimir Poutine a reconnu que les échanges sont modestes entre les deux pays, mais veut travailler au renforcement des relations économiques et des échanges commerciaux. Le capitaine Traoré affirme, lui, avoir tiré des leçons de son séjour à Moscou, notamment de la la capacité de la Russie à rester sur le devant de la scène internationale malgré les sanctions. Le chef de l'État burkinabé souhaite renforcer la coopération militaire avec la Russie car la guerre imposée à son pays n'est selon lui qu'une manifestation du nazisme. Ce n'est pas du terrorisme, c'est de l'impérialisme, a-t-il dit face au président russe. Et l'aide que la Russie pourrait aujourd'hui octroyer au Burkina Faso, ce sont les connaissances, a précisé le capitaine Traoré, afin de former sa jeunesse. Le président russe a ainsi promis une multiplication par deux du nombre de bourses accordées aux citoyens burkinabés.
Trois jours après son élection, le pape Léon XIV fera une apparition publique aujourd'hui à l'occasion de la prière dominicale. Hier samedi, le souverain pontife a longuement rencontré certains des cardinaux qui l'accompagneront le temps de son pontificat. L'Américain les a remerciés de leur confiance, les a invités à l'aider dans sa tâche et leur a dévoilé les axes de sa mission pastorale, mais pas que. Un programme que nous résume depuis Rome notre correspondant, Éric Sénanc.
En recevant les cardinaux pendant près de deux heures, le nouveau pape est revenu sur le choix du prénom Léon. C'est principalement parce que le pape Léon XIII, avec l'encyclique historique Rerum Novarum, a abordé la question sociale dans le contexte de la première grande révolution industrielle, a-t-il expliqué. Texte fondateur de la doctrine sociale de l'Église, Rerum Novarum est ainsi considéré comme une feuille de route pour le nouveau pontificat, même si les temps ont changé. Aujourd'hui, l'Église offre à tous son héritage de doctrine sociale pour répondre à une autre révolution industrielle et au développement de l'intelligence artificielle qui pose de nouveaux défis pour la défense de la dignité humaine, de la justice et du travail, a encore expliqué Léon XIV. Le nouveau pape compte aussi s'appuyer sur l'héritage de son prédécesseur François, dont il a salué une nouvelle fois la mémoire. Dans la lignée du pape argentin, il a mis en avant quelques priorités pour sa mission à venir, comme la conversion missionnaire de toute la communauté chrétienne ou encore la croissance de la collégialité et de la synodalité. Je sais que je peux compter sur vous, a lancé le nouveau pape aux cardinaux. Un réconfort dans l'acceptation d'un fardeau qui est clairement au-dessus de mes forces, a-t-il avoué. Éric Sénanc, Rome, RFI.
Et au Sénégal, la date avait été fixée avant le décès de François. C'est donc par pure coïncidence qu'avait lieu toute la semaine et qu'a encore lieu jusqu'à demain l'Assemblée Générale des Conférences Épiscopales d'Afrique de l'Ouest, regroupant 16 pays au total. Les participants ont, après l'apparition de la fumée blanche jeudi soir, adressé leurs félicitations à Léon XIV et ont prié pour sa réussite. Les échanges de cette cinquième édition se tiennent certes derrière des portes closes, histoire de maintenir les secrets, mais les grandes lignes ont tout de même été présentées à la presse ce samedi. À Dakar, la correspondance de Gwendal Lavina.
Le thème pour une église synodale et autonome au service de la justice et de la paix donnait des indices. Et effectivement, la question de l'autonomie est longuement évoquée par Mgr Twabli Youlo, le président des conférences épiscopales d'Afrique de l'Ouest.
D'abord, autonomie spirituelle. Penser par nous-mêmes, bien sûr, dans une stricte fidélité à l'enseignement de l'Église. Autonomie culturelle, célébrer la foi commune de l'Église à partir de nos cultures locales, car nous célébrons Dieu avec ce que nous sommes et avec ce que nous avons.
Les participants demandent également plus d'autonomie financière, des aspirations en phase avec les directions données par le Vatican ces dernières années. Pour la conférence, les églises ouest-africaines doivent aussi être des moteurs pour la paix dans une zone en proie au terrorisme.
Nous voulons apporter notre contribution et aucun de nos pays d'Afrique n'est à l'abri. Donc ça doit nous préoccuper tous. Donc la paix, mais pas n'importe quelle paix. Une paix basée, fondée sur la justice.
Les 148 participants appellent enfin au renforcement du dialogue entre les différentes communautés religieuses ou sociales avec comme seul objectif l'amélioration de la vie des populations. Gwendal Lavina, Dakar, RFI.
À la une du sport, Souleymane Sissoko aura dû batailler, mais il la tient sa finale mondiale. Le boxeur français venu à bout du lituanien Egidijus Kavalioskas hier à Malabo en Guinée équatoriale. À 33 ans, le natif de Dakar est désormais crédible pour le titre WBC chez les moins de 67 kilos. C'était pourtant très mal parti, Sofiane Amazian.
Souleymane Sissoko, en mode diesel, a joué avec le feu. Dans une salle complètement acquise à sa cause du côté de Malabo, le français est dépassé par la puissance de son adversaire Egidijus Kavalioskas. Moins mobile mais plus offensif, le lituanien marque les esprits lors de la deuxième reprise, un crochet du droit qui couche Sissoko compté une première fois. Une alerte terrible pour le médaillé de bronze lors des Jeux de Rio en 2016 qui chute de nouveau au milieu du combat dans le cinquième round. Cette fois, l'uppercut de Kavalioskas a failli faire basculer le français de l'autre côté des des cordes. Un début de combat inquiétant, même si l'écart entre les deux boxeurs n'est pas si important. C'est physiquement que le natif de Dakar prend le dessus. Les 7 reprises qui suivent sont une démonstration stylistique. Déplacement rapide, esquive bien sentie et coup précis. Sissoko récite sa boxe, tandis que Kavalioskas fatigue et baisse sa garde à 36 ans. Le Lituanien, qui a déjà combattu 2 fois pour la ceinture, ne peut tenir le rythme et s'incline logiquement par décision unanime. 18 combats, 18 victoires pour l'invaincu Sissoko. La récompense, une place assurée prochainement pour tenter de réaliser son rêve, devenir champion du monde.
Le récit de Sofiane Amazian. Les sports ce matin sur RFI, c'est avec Baptiste Leduc. Prochain journal dans une heure. La mort de Koyo Kouo, véritable porte-voix de l'art sur le continent africain. La Suisso-Camerounaise s'en est allée à l'âge de 58 ans. Dans la nuit de vendredi à samedi, en 2026, elle devait devenir la première africaine commissaire de la Biennale d'art contemporain de Venise. Son décès laisse un vide immense dans le monde de l'art contemporain, disent les organisateurs, quand Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, a exprimé un profond chagrin. La vie et l'œuvre de Koyo Kouo à lire sur RFI.fr.
Et puis du cinéma tunisien dans le dossier de ce journal.
Avec la sortie cette semaine en France du nouveau film de Lofty Achour à quelques jours de l'ouverture du Festival de Cannes. En 2016, il était en lice dans la catégorie court-métrage avec La laine sur le dos. C'est la même année qu'il avait sorti son premier long-métrage intitulé Demain dès l'aube. Et le deuxième, donc, Les Enfants Rouges, a fait sa première mondiale au Festival de Locarno l'année dernière et a déjà été primé à de multiples reprises. Ouda Ibrahim a pu le voir.
Les Enfants Rouges se base sur une histoire vraie, un drame qui s'est déroulé au nord-ouest de la Tunisie en 2015. Deux jeunes bergers sont capturés par des djihadistes dans une montagne où ils avaient l'habitude d'emmener leurs moutons paître. Le réalisateur fait plusieurs choix originaux, d'abord en tournant loin de la capitale, puis en filmant la majorité des scènes dans la nature et enfin en sélectionnant des comédiens non professionnels choisis dans les lycées de la région où s'est déroulé le drame. Dans sa volonté d'explorer la dimension intime de cette tragédie, racontée du point de vue d'un adolescent de 14 ans, Lotfi Achour alterne la beauté et la dureté, la poésie et la douleur, le réel et l'imaginaire. Le film opère des gros plans au plus près des visages de jeunes qui, face au tragique, quittent à jamais la douceur de l'enfance pour s'installer définitivement dans le monde des adultes.
Voilà, Ouda Ibrahim qui a pu interroger Lotfi Achour, le réalisateur tunisien, qui tenait à ce que l'action des enfants dans son nouveau film soit juste et authentique. On l'écoute.
C'est pas un film sur le terrorisme, c'est vraiment un film sur l'enfance. C'est vraiment un film sur un garçon de 14 ans qui va vivre un drame, un traumatisme où son enfance est atteinte et il va être confronté au monde des adultes, qui est un monde dur, qui est un monde injuste, qui est un monde cruel. Le film est raconté à travers les yeux de ce garçon, ce qui donne aussi une forme de poésie. Il y a d'autres personnages adolescents dans le film, celui qui se fait tuer, mais aussi un très beau personnage de jeune fille, qui est une cousine. Et c'est aussi un film sur l'éveil des sens entre ces adolescents. Il y a une histoire d'amour qui traverse le film. Il y a aussi beaucoup de douceur parce que ce garçon, il est dans un moment de choc. Il y a une forme de confusion dans sa tête. Il n'a pas encore assimilé la mort. Il ne sait pas ce que c'est exactement. C'est un apprentissage, en fait, de tout ça qui se fait dans une forme de douceur aussi.
Lotfi Achour, réalisateur du film Les Enfants Rouges, sorti ce mercredi dans les salles de cinéma en France. Il était joint par Ouda Ibrahim qui signe le dossier de ce journal et c'est ainsi que se referme cette édition. Je vous repasse la main, Julien Coquelroem.
Merci Nemo Ampis. À tout à l'heure.